Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir à Phnom Penh. En 4 ans, ils vont tuer près de 20% de la population du Cambodge. Voici le deuxième épisode de l'histoire de Pignatai, un Cambodgien qui a vu mourir toute sa famille et qui va réussir à s'enfuir en Thaïlande. Une histoire que je tire de son livre qui paraît chez Archipoche, « Tu vivras mon fils ». J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, 14h-15h, Ondelat raconte.
Dans l'épisode précédent, le 17 avril 1975, Pignatai, qui est ingénieur à Phnom Penh au Cambodge, voit arriver les Khmers rouges qui prennent le pouvoir. Comme les autres, avec sa femme Annie et leurs 3 enfants et une partie de sa famille, il prend la route de la campagne pour devenir paysan. Dans le village où ils échouent, on les force à travailler la terre et on les soumet à des séances de rééducation politique. Leurs conditions de vie se dégradent rapidement, manque de nourriture, absence de médecins. Leur petit dernier, Stoud, meurt 6 mois après l'arrivée des Khmers rouges. Ça fait 8 mois qu'on a quitté Phnom Penh. Et on est transféré dans le village de Don Hay, au nord-ouest. Et là, mon travail consiste à battre le riz avec des bœufs. Ils piétinent le riz, ça permet de séparer le paddy des tiges. Et après, on rassemble la paille, je balaye le paddy, et les femmes ramassent les grains. Et à Don Hay, par groupe de 20, tous les 3 jours, on doit participer à des séances d'autocritique, à voix haute, les yeux baissés. Je m'abaisse devant la suprême Anka. Je m'abaisse devant ceux qui sont rassemblés ici, afin qu'ils puissent me voir. Je peux voir devant moi la boue qui me tache, mais seuls mes camarades voient la boue qui est derrière moi. Camarades, j'ai besoin de votre aide pour prendre conscience de mes fautes et de mes erreurs. Je m'abaisse devant l'Ankar. Je dois être un bon révolutionnaire. Je remercie l'Ankar. Et là, on doit tout dire, tout révéler. Quel travail on a fait, s'il a été bien fait, si on a travaillé dur. Le nombre de pauses qu'on a prises, combien de fois on est allé déféquer. Tout, en terminant toujours par cette formule rituelle. Je m'abaisse pour que l'Ankar puisse me purifier, me critiquer et m'éduquer à devenir encore plus soumis. Début mars, on m'annonce qu'une équipe médicale vient d'arriver. La première depuis presque 1 an. Alors évidemment, tout le monde se prétend malade. Et j'y vais aussi. Et je tombe sur de soi-disant médecins, garçons et filles, tout en noir. Ils ont devant eux une table sur laquelle se trouvent une 20aine de bouteilles de soda, Coca, Pepsi, 7-Up, peu importe. Dans la moitié, il y a un liquide marron qui, soi-disant, apaise les douleurs. Et dans l'autre moitié, un liquide blanchâtre, un fortifiant. Vous avez mal quelque part? Non. Non, mais je suis épuisé, je suis exténué. Et là, elle attrape une seringue qui a déjà servi au moins 10 fois sous mes yeux. Et sans la désinfecter, elle la plonge dans la bouteille de Pepsi. Et ensuite dans mon bras. 2 jours plus tard, je me réveille inondé de sueur. Et au travail, je frissonne toute la journée. Et bien sûr, impossible d'accuser la piqûre. On ne critique pas l'Ankar. Alors, c'est peut-être le paludisme. Le paludisme, trop de travail, pas assez de nourriture. La situation à Don Hay est devenue catastrophique. Coliques, dysenterie, fièvres diverses et variées, et une étrange maladie, des œdèmes, du liquide qui s'accumule dans les pieds, dans les mains, qui se met à gonfler, jusqu'à ce que la peau devienne translucide. Mais aux séances d'autocritique, je dois répéter. Je ne mange pas très bien. L'Ankar n'a pas assez de nourriture. Mais ça me permet de m'habituer à la faim et de devenir plus résistant. L'Ankar m'aide à m'endurcir. Et je l'en remercie. Maintenant, mes parents ne sont plus avec nous. Ils sont dans un village à côté. Je vais les voir, et je trouve mon père étendu sur une natte.
Oh, Ty. Ty, je croyais que j'allais mourir sans te revoir. Je vais bientôt mourir, tu sais. Ça sera une délivrance. Mais toi, Ty, toi, tu dois t'en sortir. Tu vivras, mon fils. Tu vivras pour fuir. Fuis pour vivre. Allez, pars. Tu vivras, mon fils, hein? Tu vivras.
Il est mort 3 jours plus tard. Et le bébé de mon frère est mort aussi, de la colique. Et mes sœurs sont mortes aussi. Et puis ma mère, mes neveux, ma nièce, mon frère. Mon père m'a demandé de vivre. Mais est-ce que dans cet enfer, la mort n'est pas préférable à la vie? Est-ce que la mort, au lieu d'être une ennemie à combattre, n'est pas une amie qui nous délivre des souffrances? Un homme me raconte une histoire incroyable.
Ils ont découvert un cadavre. Il a été dévoré par une dizaine de gens, Ty.
Je peux le comprendre, ça. On a perdu notre humanité. Mais quand les Khmers rouges ont appris ça, ils ont dit que c'était des ogres, et dans la mythologie cambodgienne, les ogres, mangeurs de chair humaine, sont la figure du mal.
Ces ogres ne feront pas long feu. Nous avons un camp spécial pour eux. Ils ne survivront pas plus d'un mois, et ça n'est que justice.
Un jour, grâce au troc, je réussis à trouver un peu de riz. Alors je pars tout de suite chercher des petits animaux pour l'agrémenter, des grenouilles, des sauterelles, des criquets, des têtards, des escargots, des lézards, et pourquoi pas des serpents. Quand je rentre, mon fils Nawat a tout mangé.
J'ai pas pu résister, papa. J'ai essayé d'en manger un tout petit peu, mais j'ai pas pu.
Et là, j'attrape une baguette, et je me mets à le rouer de coups. Et lui, il crie « Pardon, pardon, papa !» Et là, Annie me tire le bras. La faim nous rend fous. Alors je prends Nawat dans mes bras. Je le berce en pleurant avec lui. Début mai, un Khmer rouge fait irruption chez nous. Et là, mon fils Sudat court se cacher. Le Khmer rouge va le tirer de sa cachette.
Dis donc, toi, où est-ce que tu travailles?
Mais enfin, mon fils a une blessure à la jambe. Il peut pas travailler.
Ah bon? Et comment court-il si vite? Il est fort. Il peut travailler.
Il est parti travailler, maigre, la peau tendue avec cette blessure à la jambe. Et 5 jours plus tard,
on est venu nous dire qu'il était mort. De quoi? J'ai demandé à voir le corps. Il l'avait déjà enterré. Nous ne sommes plus que 3. Annie, moi et notre fils Nawat.
Un après-midi, un cadre du village vient me chercher.
Il y a une femme morte là-bas. Vas-y, enterre-la.
Je connais bien cette famille. Ils étaient 6, ils ne sont plus que 3. Une institutrice et sa fille, et sa sœur. J'arrive chez elle, je grimpe à l'échelle. C'est la sœur qui est morte. Elle est là, enveloppée dans des chiffons et de vieux vêtements. Il n'y a que la tête qui dépasse. On descend le cadavre, on va l'enterrer à 500 mètres dans un bosquet. Le lendemain, à la cantine, j'assiste à une scène pitoyable. L'institutrice, en larmes, une joue dans la boue, presque nue, et sa fille à côté.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On me raconte qu'on a retrouvé des morceaux de chair humaine dans sa marmite. Elle a découpé en morceaux le cadavre de sa sœur avant que je ne l'enterre, et elle l'a mangé. Et si elle est là par terre à moitié nue, le visage tuméfié, c'est que les Khmers rouges l'ont battue.
Dégagez! N'ayez pas pitié pour cette ogresse!
Le soir, quand je suis allé prendre un bol de soupe à la cantine, elle était toujours là, dans la boue. Elle était morte. Je n'ai jamais su ce qu'est devenue sa fille. Je connais un homme cultivé, Sem. C'est un ancien responsable des douanes qui était assez bien placé sous le régime du prince Yanouk. De temps en temps, il dit quelques mots en français. Et désormais, la nouvelle constitution des Khmers Rouges nous autorise à posséder de petits objets personnels. Et donc un jour, Sem a sorti sa montre, une belle Omega en or. Et au déjeuner...
Dis-moi, camarade, je voudrais t'emprunter ta montre. C'est pour Lanka. Un camarade, je ne peux pas vous la prêter. J'en ai besoin pour être à l'heure au travail. Regarde-moi, camarade. Je suis le chef du groupe. Et je n'ai pas de montre. Et moi, je dois annoncer l'heure à des centaines de travailleurs. Prête-moi ta montre.
Pardon, camarade. J'ai besoin d'un renseignement. Selon la nouvelle constitution, j'ai le droit de la garder, non ? 10 jours plus tard, au déjeuner, le chef Khmer Rouge aborde la montre à son poignet. Et je les entends qui parlent entre eux.
Camarade, je vois que tu as une nouvelle montre. Oui, c'est celle de Sem, tu te souviens ? Celui qui employait tout le temps des mots français impérialistes. Je l'ai amené à la rééducation. Il a voulu s'enfuir. Je l'ai abattu.
Un jour, à une séance d'autocritique.
Yatai, comment conçois-tu ton travail ? As-tu fait des erreurs ? As-tu vu un camarade faire des erreurs ? Ou une chose défendue ?
J'ai travaillé dur, camarade. Mais l'autre jour, je me suis endormi en gardant les bœufs. Pas longtemps, juste 5 minutes. Et il y en a un qui s'est enfui. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait une faute, camarade. Et je demande à Lankar de me juger. J'accepterai votre sentence.
Camarade, c'est bien d'admettre ton erreur. Mais pourquoi as-tu attendu tant de temps pour nous le dire ? As-tu l'intention de saboter notre travail ?
Je reconnais ma faute.
Ils se sont levés un par un. Et tour à tour, ils m'ont critiqué, à voix haute. Jusqu'à ce que le chef prononce sa sentence d'une voix glaciale.
Tu n'es toujours pas réformé. Tu as encore une attitude de petit bourgeois. Ta conduite porte atteinte à la révolution. Nous allons donc employer l'éducation chaude. Je demande à 3 de tes camarades de te corriger.
Ils m'ont asséné une pluie de gifles, de coups de pied et de coups de poing. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas crié non plus. J'ai subi pour survivre. Au 3e trimestre de 1976, les gens continuent de mourir.
Dans le nouveau Kampuchea, 1 million de personnes suffisent pour continuer la révolution, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas besoin du reste. Et nous préférerons toujours tuer 10 amis que de garder un seul ennemi en vie.
Je n'ai plus qu'une idée. Fuir. M'évader. Ça m'obsède. Début novembre 1976, arrive ce que je craignais le plus. On est à la table, à la cantine. Et là, je vois un Khmer Rouge qui n'arrête pas de me regarder. Il s'approche.
Je vous connais, non ?
Non ?
Comment vous appelez-vous ?
Thaï. Je m'appelle Thaï.
Ah ! Vous ne seriez pas Pigna Thaï ? Vous étiez directeur des travaux publics, hein ? Vous êtes ingénieur, formé par l'Amérique impérialiste.
Comment me connaissez-vous ?
Je vous connais bien. Et vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? J'ai travaillé pour vous pourtant sur un chantier sur la route de Pursat. Évidemment, vos ouvriers vous connaissent, mais vous, vous ne les connaissez pas. Hein ? Je suis trop petit, et vous sans doute trop important.
Mais j'ai toujours bien traité mes employés. Vous en souvenez sûrement ?
Je ne vous ai pas dit que vous aviez commis une erreur. Mais vous étiez le supérieur de Souni, qui lui m'a renvoyé. Et en plus, en vous faisant appeler Thaï, vous avez dissimulé votre identité à Lankar.
2 jours plus tard, on vient me prévenir.
Thaï, tu es en danger, Thaï. Je les ai entendus parler de toi. Il a suggéré de t'emmener dans la forêt. Les autres lui ont dit que tu étais malade, que tu allais mourir.
Alors ils ont décidé d'attendre une semaine, mais si tu n'es pas mort d'ici là, ils vont t'emmener dans la forêt. Quand il est parti, je m'assois, immobile. Ma première réaction, renoncer, me soumettre. Ils vont m'abattre comme un chien loin, dans la forêt. De toute façon, je vais mourir. Et puis, l'instinct de survie reprend le dessus. Reprends-toi. Réfléchis. Sors de là. Mais que faire? Partir seul? Je vois Nawat au fond de la pièce, couché sur le ventre, les membres gonflés. Non. Non, je ne le laisserai pas, ni lui, ni Annie. Mais est-ce que je peux m'enfuir avec eux? Non. Il vaut mieux qu'ils restent ici plutôt que de mourir avec moi. Alors après dîner, Nawat s'est endormie derrière son rideau au fond de la paillote. Annie. Annie, ma chérie. Viens. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je suis condamné, Annie. J'ai été formé en accident. Pour eux, c'est impardonnable. Ils vont venir me chercher dans une semaine. Mais toi, même si tu es ma femme, si tu restes seul ici avec Nawat, je pense pas qu'ils vont te faire de mal. Elle ne dit rien, mais son regard, c'est la seule solution, Annie. Je vais tenter ma chance dans la forêt. Si je réussis, on se reverra.
Tu veux partir? Tu veux me laisser ici avec Nawat? Mais Tai, mon chéri, je préfère mourir avec toi que de rester ici.
C'est la première fois, de toute notre vie à deux, qu'elle ne se range pas, à mon opinion. Elle aussi, elle ne veut pas choisir entre la vie et la mort. Elle est lucide. Elle veut juste choisir sa façon de mourir, c'est-à-dire avec moi.
Mais Tai, si on part tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire de Nawat? Il peut pas venir avec nous, il peut pas marcher longtemps, on peut pas le porter. Ils vont nous rattraper, ils vont nous tuer. On doit le laisser ici, Tai. Mais on peut pas le laisser.
Annie est en train d'accomplir le plus grand sacrifice qu'une mère peut faire. Abandonner son fils pour tenter de se sauver.
Qu'est-ce qu'on va faire de Nawat, Tai?
On l'amène à l'hôpital. C'est ça qu'il faut faire. On l'amène à l'hôpital. Le lendemain, je suis allé demander au chef de village d'amener Nawat à l'hôpital. Et comme il était très malade, que ses pieds, ses mains, ses joues étaient enflés, il a dit oui. À l'hôpital, je mets Nawat dans un lit. Et là, j'entends une voix, une femme.
Oh, c'est incroyable! Cet enfant ressemble bien comme deux gouttes d'eau. Moi, mes enfants sont morts maintenant. Ah? Vous pourriez peut-être vous occuper un peu de lui puisqu'il ressemble à votre fils. Ah oui? Je m'occuperai de lui. Je vous en prie. Ma femme et moi, on est malades. Prenez soin de lui.
On a mis 3 jours à se décider à partir. Et avant de partir, je suis retourné voir Nawat à l'hôpital. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai glissée dans sa poche. Garde-la sur toi. Et mets-la quand tu seras grand. Tu dois vivre, Nawat. Que Bouddha et les bons esprits veillent sur toi. Souviens-toi, Nawat. Tu vivras, mon fils. Et maintenant, il faut tout planifier et vite. Il y a un chantier d'irrigation, pas loin. Il nous faut des informations sur le chemin pour y aller. Annie connaît une fille, Mom, qui a travaillé là-bas. Elle va la voir. La fille se retrouve toute seule. Elle veut partir avec nous. Et elle nous conseille d'aller dans une carrière où les gens sont envoyés casser des pierres. Et moi, je fabrique de faux laissez-passer. J'ai encore du papier et un stylo à billes bien caché. J'imite la signature du chef de village. Les Khmers rouges sont des illettrés. Ils n'y verront que du feu. On quitte le village à l'aube, un matin de novembre 1976. Je marche loin devant les femmes. J'ai mis une chemise noire, une casquette chinoise et des sandales au chemin. On a 16 kilomètres à parcourir jusqu'à cette carrière. Et je n'ai aucune idée de ce qu'on fera après. On est resté 6 mois dans cette carrière. Le temps d'étudier un itinéraire pour notre grande évasion vers la Thaïlande. On est parti en mai 1977 avec un tout petit groupe en file indienne dans la jungle. Tous les autres ont été arrêtés, sauf nous deux et une amie d'Annie. Un soir, le 9e jour je crois, on arrive au sommet d'une montagne. La nuit commence à tomber, on s'installe pour dormir. Et là je fais un petit feu. Aucun risque, hein, la fumée se perdra dans les arbres. Mais au moment de nous coucher, ce petit feu s'étend à des herbes sèches. J'essaye de l'éteindre, j'y arrive pas. Il faut partir, Annie. Il faut ramasser nos affaires, on file. Et là, on dévale la pente, affolé, et à peu près à 200 mètres plus bas, Annie me dit « La boîte, taille. On a oublié la boîte. » Une boîte dans laquelle on fait cuire notre riz, c'est un objet vital. « N'y va pas, Annie. On n'a pas le temps d'y retourner, viens. » Elle y est allée quand même. Et j'ai attendu qu'elle revienne. Longtemps. J'ai même crié « Annie ! 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 » J'ai marché des heures. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je n'ai pas non plus retrouvé son ami Hing. Et je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Et là, ma petite voix m'a dit « Pars. Pars maintenant. » Alors je me suis levé et j'ai marché vers le soleil couchant, comme un fantôme. Je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus peur. J'étais devenu invincible. Et puis j'ai perdu mon sac, avec mon riz. Je l'ai oublié au bord d'un ruisseau. Alors j'ai commencé à me nourrir de fruits, de champignons, de larves, de tortues crues, de chauves-souris crues. C'était risqué. Mais qu'est-ce que j'avais à perdre? Je n'ai plus que la peau sur les os. À chaque pas, je dois arracher les sangsues qui se collent à mes jambes. Mais j'avance. J'avance poussé par l'injonction de mon père. Tu vivras, mon fils. La Thaïlande n'est pas loin maintenant. J'en suis sûr. À un moment, je tombe sur un obstacle. Une rivière large et tumultueuse. Pour la traverser, je me déshabille, je fourre mes dollars dans ma gourde et je saute à l'eau en slip en tenant mes affaires à bout de bras. Et là quoi? À 20 mètres? Je vois 3 jeunes soldats de 15 et 16 ans, tout vêtus de noir, qui braquent leurs fusils sur moi. Des Khmers rouges! Je n'ai pas eu peur. Ils m'ont emmené dans leur camp. Alors vous venez de Thaïlande? Ah non, camarade. Au contraire, je viens du Cambodge. Regardez-moi. Si je venais de Thaïlande, est-ce que je serais aussi maigre? Alors, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. J'ai tellement faim. Ils m'ont donné des bananes.
Qui vous a dit que nous vous tuerions? On ne tue pas les gens, hein? On a besoin d'eux pour reconstruire le pays. Vous allez rester avec nous et travailler avec nous. C'est tout. Vous êtes notre camarade, notre frère.
Ils m'ont attaché pour la nuit, après m'avoir dit qu'on était à 300 mètres de la frontière thaïlandaise. Mais le lendemain, ils m'ont traité d'ennemi. Et moi, je savais ce que ça voulait dire. Ils allaient m'exécuter. Le soir, ils m'ont attaché au lit, mais un peu moins fort. Je me suis endormi et j'ai été réveillé par un orage. J'avais des crampes terribles à l'estomac.
Camarade ! Camarade, j'ai mal au ventre. Vite, sinon je vais faire dans mon pantalon.
Ils m'ont emmené dehors.
Vous pouvez me desserrer un peu les bras ?
Et là, la pluie s'est mise à tomber, violente. Ils m'ont ramené dans ma tente, et là, avec la pluie, la corde s'était un peu détendue. Je pouvais bouger mes bras. Et là, d'un coup, le nœud de mon bras droit s'est défait, et puis le gauche. J'ai pris mon temps. J'ai profité d'un coup de tonnerre. Je suis sorti dehors, et je me suis laissé glisser jusqu'au bord de la rivière. J'avais repéré un câble qui l'a traversé. Je me suis accroché à ce câble, le courant était violent, le câble tremblait. Arrivé au milieu, le courant a failli m'emporter. Dans l'état dans lequel j'étais, je ne sais pas comment je suis arrivé à traverser cette rivière. Mais j'étais libre. Libre. Je n'ai pas pris le chemin le plus court. J'ai encore marché 2 jours. Et je suis arrivé au-dessus d'une autoroute avec des voitures et des maisons de poupées. La Thaïlande. J'ai tiré cette histoire du livre de Pignatai, Tu vivras mon fils, aux éditions Archipoche.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.